Coucou, c'est Victor. Comme un poisson dans l'eau, c'est un podcast indépendant, gratuit à écouter et sans publicité. Mais c'est pas gratuit à produire. Ça me demande de l'argent, mais surtout énormément de travail qui n'est pas rémunéré. Alors si vous pensez que Comme un poisson dans l'eau apporte quelque chose de positif et que vous voulez qu'on puisse continuer à déconstruire le spécisme ensemble, j'ai besoin de votre soutien. Vous pouvez aller sur la page YouTube du podcast, dont le lien est en description, et établir un don mensuel ou faire un don ponctuel. Vraiment, même 1 €, ça me fera très plaisir. Et si vous donnez tous 1 €, ou même plus, j'aurai vraiment de quoi faire grandir le podcast. Un immense merci aux tipeuses et tipeurs pour votre soutien. Et sinon, une autre super façon de soutenir le podcast, c'est de le partager sur les réseaux, d'en parler autour de vous, et de laisser des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour l'épisode. Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch, et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Essentiellement, dans Comme un poisson dans l'eau, on essaye de comprendre pourquoi on tue ou on laisse souffrir d'innombrables individus d'autres espèces. Et on se demande aussi parfois comment faire pour réduire ces souffrances en allant vers un monde moins spéciste. Et la tâche est tout simplement gigantesque. Même avec les meilleures intentions du monde et beaucoup d'énergie militante, on n'est pas toujours sûr de bien faire les choses. Et même on peut parfois se sentir démuni en l'absence de certitude qui nous assurerait de pouvoir améliorer les choses significativement pour les autres animaux. La façon dont je vois ça, c'est qu'on est sur un terrain de guerre. La guerre que les humains livrent contre les autres animaux. Il y a des victimes partout autour de nous. Les morts continuent de s'accumuler bien plus vite qu'on ne peut les secourir. On est trop peu de personnes à pouvoir aider. Et cela impose de faire des choix difficiles, même impossibles, et qui seront nécessairement insuffisants. Dans de telles situations, la chose à faire qui permet de sauver le plus de personnes, c'est le triage. Ce que font les médecins, en situation de guerre ou en cas de catastrophe. Chaque vie compte, et c'est pour ça qu'il est impératif de prioriser, en fonction de ce qui sauvera le plus de personnes, en allouant les ressources et les énergies au meilleur endroit. Et justement, il y a un mouvement qui prend très au sérieux cette importance de l'efficacité, pour réduire au maximum les souffrances. C'est l'altruisme efficace, l'AE de son petit nom. Je reçois pour en parler Tom Brie-Chevalier, doctorant sur les enjeux économiques et environnementaux des protéines alternatives, et en particulier de la viande cultivée. C'est aussi le créateur du blog et de la chaîne YouTube Pagurmeca. C'était le cofondateur de la première antenne de l'altruisme efficace en France, à Sciences Po en 2015. C'est aussi un ancien employé et désormais bénévole à Altruisme Efficace France. Et il a donné cette année un cours sur l'altruisme efficace avec Antonin Broye à l'université Paris Sciences et Lettres. Bonjour Tom Brie-Chevalier.
Bonjour Victor.
Alors merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans le podcast, et la chaîne YouTube Pagurmeca a été une des inspirations de Comme un poisson dans l'eau, donc avant de commencer, j'encourage les auditoristes à aller écouter les épisodes de votre podcast. Déjà peut-être à grands traits, et après on pourra entrer un peu plus en détail dans l'histoire et les champs d'action de l'altruisme efficace, mais globalement donc qu'est-ce que c'est l'altruisme efficace en fait ?
Ouais, donc l'altruisme efficace c'est un mouvement social et philosophique qui cherche à réfléchir aux meilleurs moyens d'avoir un impact positif sur le monde et de les mettre en œuvre. Donc en fait, c'est un peu vague, ça va un peu tout rien dire comme ça. On peut un peu essayer de décomposer ce que je viens de dire. Donc réfléchir rationnellement aux meilleurs moyens. Bon, là, on va voir qu'on a une réflexion qui est plutôt de l'ordre empirique, qui est de dire, ok, on va essayer de s'appuyer sur les données actuelles, les données scientifiques qui existent, pour savoir si on veut effectuer telle action, typiquement, je sais pas, combattre la malaria ou diminuer l'extrême pauvreté. Bon, que nous dit la littérature scientifique sur la manière la plus efficace de réduire l'extrême pauvreté. Donc ça, c'est la partie réfléchir rationnellement plutôt d'ordre empirique, même s'il y a évidemment un peu normatif là-dedans, on pourra creuser ça plus tard. Et donc après, la deuxième partie, donc au meilleur moyen d'avoir un impact positif sur le monde, ou de faire le bien, on pourrait dire aussi, même si c'est un peu galvaudé comme terme. Là, on voit qu'on est plutôt dans l'ordre du côté normatif, à savoir, ça veut dire quoi en fait, faire le bien, avoir un impact positif sur le monde, c'est quoi? Auprès de qui on va avoir un impact positif, Est-ce que c'est auprès des humains qui vivent aujourd'hui? Est-ce que c'est auprès des générations futures? Auprès des animaux? C'est des réflexions qu'on doit se poser quand on parle d'avoir un impact positif sur le monde. Enfin, ça va pas de soi, en fait, ce qui est bien ou n'est pas bien. Donc c'est un peu les deux, en fait. C'est d'une part, réfléchir à cette question-là. En fait, c'est quoi aider? Qui on veut aider, etc. Et une fois qu'on a bien délimité notre objectif, de qui on veut aider et de quelle manière, ben on se dit, ok, que nous dit la littérature scientifique sur le sujet pour parvenir à cet objectif et donc pour être le plus efficace possible.
Bah justement, j'ai l'impression que c'est ce qui fait un peu la particularité de l'altruisme efficace, c'est le côté efficace, parce que l'altruisme, c'est un peu propre à tous les mouvements sociaux qui s'engagent pour faire du bien, pour faire le bien.
Oui, tout à fait. Ce qui peut paraître un peu bizarre, je pense que beaucoup de gens, à tort ou à raison, et parfois à raison, se méfient un peu en fait de ce qui va être la recherche d'efficacité qu'on va associer à une sorte de productivisme déplacé, alors que dans l'AE, c'est clairement revendiqué cette efficacité. Et en fait, cette revendication, elle vient d'un constat assez simple, qui je pense mettra plus ou moins tout le monde d'accord, qui est qu'on a des ressources limitées, malheureusement. Ces ressources peuvent être du temps, de l'argent évidemment, le nombre de personnes qui s'intéressent à un sujet, enfin vraiment, ressources, faut l'entendre au sens le plus large possible. Et donc, compte tenu de ces ressources limitées, en fait, si on n'a pas une optimisation de la manière dont on va déployer ces ressources, on va se retrouver avec un résultat qui fait qu'il y aura plus de personnes lésées ou moins de personnes à qui on pourra venir en aide que si on optimise l'utilisation de ces ressources. Typiquement, si j'ai, je sais pas, 100 unités de ressources et qu'avec ces unités, je peux soit sauver 5 personnes, soit 10 personnes, bah, je pense que, dit comme ça, mais aussi abstraite, ça paraît assez logique qu'on veut aider les 10 personnes. Bon, dans les faits, c'est plus compliqué, il y a plein de contextes à rajouter. Mais l'idée, c'est de dire que, en fait, on pourrait même arguer qu'il y a une sorte de devoir moral à l'efficacité, de la manière qu'on a un devoir moral à aider les autres, bah, à bien aider les autres, dans le sens d'aider le plus possible. Voilà. Et bon, quelques critiques, parfois, de cette notion de ressources limitées, ça va être de dire que, en fait, ce qui compte, c'est, pas forcément l'optimisation, mais juste d'augmenter la quantité de ressources de base, mais j'ai envie de répondre, l'un n'empêche pas l'autre. On peut à la fois augmenter le nombre de ressources et en même temps essayer de mieux distribuer pour aider le plus de monde possible.
Oui, j'ai l'impression que c'est une réflexion particulièrement pertinente pour la lutte contre le spécisme, parce que peut-être plus que d'autres causes, on est en ressources très limitées, déjà par le nombre de personnes tout simplement qui sont sensibilisées et qui ont de l'énergie, de la motivation, des ressources à engager dans cette cause, et puis aussi juste par rapport à l'ampleur, au nombre d'individus concernés, à la quantité de souffrance, je pense que c'est d'autant plus important de bien allouer les ressources, d'essayer d'être le plus efficace pour aider le maximum d'animaux en fait.
En fait, plus les ressources sont restreintes, plus on peut dire qu'on a une forme de devoir à l'efficacité. Alors que si on avait des ressources abondantes, on pourrait peut-être plus se permettre d'avoir des choses expérimentales, dont on est moins certain du résultat. Mais comme on a beaucoup de ressources, bah bon, c'est pas trop grave. Mais c'est vrai que quand on a très peu, il y a vraiment un côté assez critique de bien les utiliser, sinon on avance vraiment pas assez vite.
Alors, est-ce que vous pourriez me dire un peu comment est né ce mouvement de l'altruisme efficace? Peut-être qui étaient ses fondateurs, fondatrices, et les principes sur lesquels ils se sont appuyés pour lancer ce mouvement?
Ouais, alors c'est un mouvement qui est né, on va dire, un peu simultanément à deux endroits, on va dire, du monde. D'une part, c'est né donc à Oxford, avec certains philosophes, notamment William McCaskill et Toby Horn, qui, inspirés de certains écrits de Peter Singer, ont commencé à développer une philosophie qui serait vraiment un peu les bases de l'altruisme efficace, à voilà, revendiquer des notions qui sont au cœur de l'altruisme efficace, donc le besoin d'efficacité, le fait de devoir aussi donner plus de temps et de ressources pour aider. Parce que dans l'altruisme efficace, il y a évidemment la question de bah, faire quelque chose de bien, de s'y mettre, quoi. Donc voilà, on va dire il y a une essence un peu universitaire à Oxford par ces gens-là. Et en même temps, aux États-Unis, on a, du côté de San Francisco, il me semble, donc deux hommes, dont j'ai oublié le nom, qui étaient avant dans le consulting et qui se disent « Nous, on aimerait bien donner de l'argent à des ONG, mais en fait, on n'a aucune idée de lesquelles sont vraiment les plus efficaces. » Et les comparateurs qui existent en ligne nous paraissent ne pas avoir des critères très pertinents pour évaluer l'efficacité de ces ONG. Et en fait, ils ont vu un peu ce besoin-là, parce que bah voilà, il y a un peu l'idée, je pense qu'on a beaucoup et qui est assez... pour le coup, je pense légitime, que beaucoup d'ONG font, malgré les bonnes intentions, pas forcément du super boulot. Ça parce que bah c'est plus compliqué que ce qui est pensé. Enfin, l'exemple un peu caricatural, ça va être des étudiants qui vont construire un puits dans X pays africains, alors qu'ils n'ont aucune compétence pour construire un puits ou une école, que ça a coûté cher de faire aller-retour jusque dans tel pays. Enfin voilà, c'est vraiment la catastrophe absolue de ce qu'on peut faire, plus que côté néocolonialisme qu'on peut y trouver.
Ouais, les bonnes intentions suffisent pas, en fait.
Les bonnes intentions suffisent pas, malheureusement, même pour des ONG, dont c'est le travail qui ont l'habitude. Et ben, ils disent, bon, bah, non, on aimerait bien savoir ce qui est bien, et donc ils ont créé cette organisation qui s'appelle GiveWell, qui se donne précisément comme objectif d'évaluer quelles sont les ONG les plus efficaces dans le domaine de la lutte contre l'extrême pauvreté et de la santé dans les pays pauvres, en développement. Et ça va commencer un peu à créer un écosystème autour de ces deux pôles qui vont finir par se rencontrer. Et à la fin des années 2000, début des années 2010, se crée officiellement ce mouvement de l'altruisme efficace avec la création du Center for Affective Altruism. Et de là vont naître pas mal d'organisations qui vont s'affilier au mouvement, comme Giving What We Can, qui propose aux gens de faire une pledge, on pourrait dire une promesse en français, à vie, pour donner une partie de leurs revenus. Donc au départ, ils proposaient de s'engager, si on promettait de donner au moins 10% de nos revenus tout au long de notre vie. Maintenant, il y a d'autres paliers un peu plus faibles, notamment pour les gens qui auraient envie d'aider, mais qui ont moins les ressources.
D'accord.
Donc ça, c'est une des premières organisations qui est née. Après, il y a aussi des organisations de recherche qui sont nées de ce mouvement et qui gravitent autour d'Oxford, etc. Et voilà, aujourd'hui, on a pas mal d'organisations qui sont directement affiliées à l'altruisme efficace, parce qu'elles sont nées du mouvement ou parce qu'elles l'ont rejoint après, en reconnaissant son intérêt ou en tout cas en voyant comment ça pouvait leur apporter, soit d'organisations qui, bien qu'elles ne soient pas directement affiliées à l'AE, peuvent être assez proches dans certains de ces principes ou vont être soutenues par l'AE parce qu'on pense qu'elles font du bon boulot par ailleurs, même si elles ne se revendiquent pas de l'AE. Typiquement, AE114, c'est un bon exemple. Ils ne se revendiquent pas de l'altruisme efficace, même si je pense que Brigitte Gauthier et Sébastien Arsac connaissent un peu le mouvement, mais c'est une association qui a été pas mal soutenue par le mouvement de l'AE, parce qu'on trouve qu'ils font un super boulot, et voilà.
Et c'est un mouvement qui a connu une certaine croissance ces dernières années, ouais. Non ? Il a essaimé notamment dans plusieurs pays.
Ouais, c'est un mouvement qui a grandi très rapidement depuis plus de 10 ans. J'ai pas de chiffres en tête sur le nombre de personnes ou d'organisations aujourd'hui qui s'en revendiquent, mais c'est clairement implanté dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays. Il y a des dizaines d'organisations qui se revendiquent de l'AE, qui mènent de la recherche. Si on regarde le nombre de dons qui ont été effectués, donc déjà effectués, on est en centaines de millions de dollars, et pour les promesses de dons, on est en milliards, donc ça commence à brasser aussi pas mal d'argent. Ça commence vraiment à peser dans certaines décisions qui sont faites et dans certaines recherches. Ouais, ça a bien grandi, et je pense que ça va continuer à bien grandir, avec les risques que ça peut avoir aussi.
Et pour la France, ça fait en fait moins d'une dizaine d'années que le mouvement s'est développé, implanté. En fait, vous avez créé, c'est ça, la première antenne de Sciences Po de l'altruisme efficace en France.
Exactement. Donc en 2015, avec un camarade de Sciences Po, on a créé donc la première antenne qui était juste une asso étudiante. On ne peut pas non plus dire que c'était un truc extraordinaire. Concrètement, on faisait des conférences et on mangeait du houmous. Et en 2016 est créé, donc un an plus tard, Altruisme Efficace France, qui est l'antenne nationale et qui elle se donne pour objectif vraiment de pas se contenter de diffuser l'AE au sein de Sciences Po, mais dans la France plus généralement. Et depuis, ça a pas mal grandi avec quelques groupes locaux, soit dans d'autres villes françaises, parce que AEF est plutôt basé à Paris, soit dans des universités. Et maintenant, il y a 2 employés, je crois, qui travaillent à EF pour justement présenter un peu l'AE, inciter les gens à être plus altruistes et aider les gens qui aimeraient être altruistes à un peu trouver comment ils pourraient l'être au mieux. Donc typiquement, en s'orientant vers des choix de carrière qui seront jugés plus efficaces, mieux s'informer sur certains grands enjeux. En gros, de la sensibilisation, comme on peut en avoir sur d'autres causes, avec l'idée de pas seulement sensibiliser, mais aussi de pousser à l'action derrière.
Et alors du coup, pour que l'altruisme soit le plus efficace possible, pour faire le plus de bien possible dans le monde, quels sont les critères qui permettent de sélectionner les causes prioritaires et les meilleurs moyens à utiliser dans ces causes?
Ouais, bon, c'est une question très vaste et clairement la réponse que j'ai faite sera forcément pas hyper satisfaisante parce que c'est en quelques minutes, On va dire qu'une heuristique qui est souvent utilisée dans le milieu de l'altruisme efficace, c'est ce qu'on appelle le cadre STN, Donc en anglais, c'est scalability, tractability and neglectedness. Qu'en français, on pourrait se dire par impact, possibilité de mise à l'échelle et caractère négligé d'une cause. Mm-hmm. Donc je vous détaille un peu. Donc la scale, enfin impact, échelle, bah c'est tout simplement en fait combien d'individus sont affectés par un problème et à quel point c'est grave. Typiquement, bah le rhume, ça touche beaucoup de gens, mais c'est pas très grave. Il y a d'autres maladies, par exemple orphelines, qui vont être très graves, mais qui vont toucher que très peu de personnes. Et en fait, idéalement, tout chose égale par ailleurs, on aimerait pouvoir résoudre un problème qui va toucher beaucoup beaucoup de gens, enfin d'individus, et qui touche gravement. Typiquement, la prévention d'une pandémie, intrinsèquement, c'est quelque chose qui va toucher beaucoup de gens, et qui peut faire des ravages, bah ça va répondre à ce critère-là. La question des animaux d'élevage, pareil, ça, j'ai d'élevage, mais en fait, il y a aussi des animaux qui sont pêchés, et les animaux sauvages, enfin bref, en tout cas, la question des animaux qui sont utilisés pour notre consommation, bah, pareil, ça concerne des dizaines de milliards d'individus par an, et bah on les tue, et pour beaucoup, on les fait vivre dans des conditions d'élevage épouvantable, donc ça correspond aux deux critères. Donc ça, c'est, on va dire, l'échelle, à quel point ça concerne beaucoup d'individus, et avec quelle gravité. Deuxième critère, ça va être la question de tractability, c'est à quel point il existe des solutions aux problèmes qu'on a identifiés, et est-ce que ces solutions sont faciles à mettre en œuvre.
C'est le potentiel de résolution du problème, en fait.
Exactement. Typiquement, ouais. Si on prend quelque chose comme le paludisme, c'est une maladie qu'on sait aujourd'hui très bien prévenir, avec des filets de protection, avec certains médicaments, peut-être bientôt un vaccin, et ça coûte vraiment pas cher, en fait, de distribuer des filets de protection contre le paludisme. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est facile à résoudre. Alors que d'autres maladies qui peuvent toucher beaucoup de gens et être très graves, comme le cancer, bah, malgré des milliards et des milliards d'euros là-dedans, on n'a pas de solution encore super. Bon, on a fait des progrès hein, depuis des dizaines d'années, on meurt moins du cancer, aujourd'hui on le vit mieux qu'en son main, mais malgré tout, c'est beaucoup plus onéreux que de soigner la malaria. Donc voilà, tout chose égale par ailleurs, on va préférer un problème qui est facile à résoudre. Et enfin, le dernier critère, c'est le caractère négligé d'une cause. Bah, c'est assez transparent, c'est à quel point il y a beaucoup de gens qui travaillent déjà là-dessus ou pas. C'est important parce que, et ça, ça vient d'un concept en économie qui s'appelle les rendements marginaux décroissants. En fait, l'idée, c'est que s'il n'y a pas encore beaucoup de gens qui ont été sur une cause, il y a de fortes chances qu'on puisse rapidement avoir des victoires faciles. Simplement parce qu'on n'a pas encore débroussaillé, bah, c'est assez facile de trouver des bonnes solutions. Si je prends une métaphore avec, je sais pas, le fait de rechercher de l'or, bon bah, si vous trouvez un nouveau filon d'or qui n'a pas été exploité, l'or va quasiment être apporté, enfin, il est facile à trouver. Alors que s'il y a déjà beaucoup de monde, on va dire que les filons d'or les plus évidents, les plus visibles, ont déjà été trouvés. Donc en fait, il faut creuser plus loin, c'est plus compliqué pour trouver encore plus d'or.
Ça veut dire que, un peu paradoxalement peut-être, il y a des causes que l'altruisme efficace va juger importantes, avec beaucoup d'ampleur et qui a un potentiel de résolution, mais comme tout le monde est déjà dessus, l'altruisme efficace va pas particulièrement s'y intéresser. Je pense au réchauffement climatique, par exemple, les crises écologiques.
Totalement. Bah, c'est vrai que parfois ça surprend un peu les gens, en fait, qu'il n'y ait pas plus d'emphase sur la ouais. question du changement climatique au sein de l'altruisme efficace. Enfin, d'ailleurs, moi-même, avant d'avoir commencé ce doctorat, j'ai un master en politique environnementale, donc j'avais vraiment un intérêt très fort pour cette cause-là. Et oui, ça s'explique notamment par le fait qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de gens dessus, et donc, marginalement, on aura moins d'impact que si on s'intéresse à d'autres causes qui sont au moins aussi importantes, voire plus. Et c'est pas du tout que les AE sont climato-sceptiques, c'est juste, voilà, comme tu l'as dit, que en fait, il y a tellement de causes importantes qui concernent beaucoup de monde que parfois, on peut venir à faire des choix qui peuvent paraître bizarres, mais qui peuvent se justifier, à mon sens, quand on comprend la logique derrière.
J'ai l'impression qu'il y a une inquiétude, parfois, quand on commence à parler de priorisation des causes, c'est peut-être de laisser sous-entendre que des causes seraient plus importantes intrinsèquement que d'autres, ou encore plus quand on se dit qu'il faut hiérarchiser selon l'ampleur, est-ce que ça peut pas avoir comme conséquence de négliger certaines causes qui concernent des minorités, par exemple?
Je comprends la critique, et notamment à gauche, on déteste hiérarchiser les causes, hiérarchiser les luttes, et pour le coup, c'est quelque chose avec lequel je suis pas trop d'accord. En fait, je pense que c'est important de hiérarchiser, parce qu'il y a de toute évidence des causes qui sont moins importantes, et en fait, si on prend des exemples absurdes, on se rend très vite compte. Typiquement, si on a la lutte contre une maladie qui, je sais pas, donnerait des ballonnements dans le ventre, mais qui serait pas létale et qui finalement déprécierait pas de manière significative la qualité de vie des gens qui la subissent, ça pourrait être normal de moins prioriser la recherche de remèdes contre cette maladie que contre une maladie qui est mortelle pour les gens. En fait, ça veut pas dire que les gens qui subissent cette maladie ne souffrent pas, ça veut pas dire que c'est pas important et que leur souffrance a moins d'importance. En fait, à l'inverse, je pense qu'en fait, la question de la hiérarchisation et de la priorisation, elle est assez intuitive et évidente dès lors qu'on donne une valeur équivalente à toutes les vies, à toutes les souffrances. Puisque ça paraît logique, si toutes les vies ont la même valeur, si la souffrance de mon voisin a la même valeur que celle de quelqu'un au bout du monde, de privilégier bah, d'aider d'abord les gens qui souffrent le plus ou d'aider le plus de gens. En fait, si on refuse de hiérarchiser, si on refuse de prioriser certaines causes, on arrive à des situations où on peut prioriser davantage une cause et donc on va donner plus de valeur implicitement à certaines vies qu'à d'autres.
Ouais, il faut rappeler qu'en fait, c'est vraiment, si on avait toutes les ressources du monde, on pourrait aider tout, enfin, tout distribuer, tout faire. Et c'est que c'est l'absence ou le manque de ressources qui impose de devoir prioriser et d'essayer de répondre au plus efficacement à tous les maux de MAUX de ce monde, quoi.
Exactement, exactement. Si on avait les ressources infinies, la question se poserait pas, et il y aurait pas de, enfin, là, je suis d'accord de dire qu'il n'y a pas de hiérarchisation, quoi. C'est...
Oui, donc ça montre bien que c'est pas une hiérarchisation intrinsèque de la légitimité de chacune des causes, mais c'est bien une hiérarchisation, une priorisation, en fait, d'allocation de ressources.
Voilà, et justement, enfin, encore une fois, l'idée, c'est pas de dire que certaines causes, certaines souffrances valent moins que d'autres. Au contraire, c'est de dire que comme toutes les vies se valent, et toutes les souffrances équivalentes, enfin, se valent, peu importe qui les subit,
ouais.
Bon, en fait, faire preuve d'empathie, c'est parfois prioriser pour aider le plus de gens ou diminuer le plus de souffrances.
Bah alors du coup, à partir de ce principe de devoir prioriser certaines causes dans l'allocation des ressources, quelles sont les causes qui sont retenues par l'AE, que l'AE considère, donc l'AE, l'altruisme efficace, considère comme les plus prometteuses et pour lesquelles le mouvement investit du temps et des ressources?
Ouais, donc historiquement, la première cause qui est apparue, c'est celle d'aider les humains en situation d'extrême pauvreté dans les pays en développement et d'aider aussi à la santé dans les pays en développement. En fait, il y a des millions de gens qui meurent chaque année de maladies qu'on pourrait facilement soigner. Et quand je dis facilement, ça veut dire soit qu'on pourrait les prévenir avec juste un simple vaccin, soit qu'on pourrait soigner pour quelques dizaines d'euros. Une des causes prioritaires, ça a été la lutte contre la malaria, qui est une maladie qui fait des centaines de milliers de morts par an, qui est facile à prévenir. Il y a aussi, du coup, la supplémentation par rapport à certaines déficiences nutritionnelles, qui était facile à complémenter avec juste bah, quelques suppléments qui coûtent une misère et qui évitent des complications graves au niveau de la santé. Donc bah, c'est la première cause, on va dire, vraiment santé et pauvreté globale. Assez vite, une deuxième cause qui est apparue et qui est pas très étonnante quand on sait que l'altruisme efficace a été en partie inspirée par Peter Singer et par l'utilitarisme, ça va être la cause animale et notamment la question de la souffrance des animaux d'élevage.
Et la diversité des causes est encore plus grande. Il y a des causes plus récentes, relativement plus récentes.
Exactement. Il y a une troisième grande partie de causes dans l'AE qui sont plus récentes, comme tu l'évoques, qui sont toutes les causes liées au long terme. Parfois, on dit long-termisme en anglais et en français. Il y a plusieurs manières de voir les choses. Le long-termisme court, ça va être de dire, en gros, bon bah, il y a des catastrophes qui peuvent arriver assez rapidement et qui auront un impact énorme sur l'humanité, et on veut les prévenir. Typiquement, ça va être bah, prévenir la prochaine pandémie. On peut très bien le voir avec une optique assez court-termiste quand même. Pourquoi c'est important et pourquoi c'est négligé. Enfin, je pense qu'on s'est rendu compte assez facilement avec le Covid qu'on n'était pas du tout préparé aux pandémies quand elles survenaient. Et on a eu de la chance, entre guillemets, que le Covid soit relativement gentil par rapport à plein d'autres virus qu'on aurait pu avoir parce que le Covid n'était pas si létal que ça. Et ça a déjà été une catastrophe mondiale comme on a eu très peu en fait ces dernières années. Enfin, j'ai plus le décompte officiel du nombre de morts du Covid, mais c'est des millions. Enfin, je sais pas si on a franchi à barre des dizaines de millions, mais en tout cas c'est voilà, absolument colossal. Alors que c'était quelque chose de beaucoup plus modéré que plein d'autres choses qu'on aurait pu avoir. Et globalement, on n'a pas très bien appris non plus les leçons à ce niveau-là. Donc c'est un truc assez flippant dès qu'on commence à creuser là-dedans. Notamment quand on se rend compte qu'en plus de toutes les pandémies naturel. Il y a plein de pandémies man-made qui pourraient voir le jour, soit à cause d'une erreur de manipulation dans un laboratoire, soit même par des individus malveillants, en fait. Bah aussi avoir la question, ça je connais un peu moins, de tout ce qui va être risque lié à l'intelligence artificielle. Je vais pas trop développer parce que c'est pas mon domaine d'expertise, mais en gros, ça va correspondre à la manière dont, à la fois, l'IA, d'ailleurs dès aujourd'hui, peut aboutir à plein d'effets très négatifs, et notamment si vous connaissez Lee de la chaîne Science for All, qui travaille beaucoup sur comment les algorithmes peuvent avoir plein d'effets très négatifs sur la santé mentale, sur l'aggravation du racisme, sur plein de choses, ne serait-ce que sur en fait la suggestion de nos loisirs et des vidéos YouTube qu'on va regarder. En fait, il y a une vidéo que j'aime bien, Lee, qui parle de l'algorithme YouTube, qui dit qu'en fait, si l'algorithme était différent, s'il décidait de favoriser les vidéos sur le climat, sur les causes qui sont importantes, plutôt que de favoriser des vidéos conspirationnistes comme c'est aujourd'hui le cas, en fait, plein de gens se retrouvaient confrontés à des vidéos qui, a priori, pourraient les amener à faire beaucoup plus de bien que ce à quoi ils sont confrontés aujourd'hui. Donc ça, c'est la partie long-termiste, enfin, la partie un peu court-termiste de l'IA. Et donc après, il y a la partie, on va dire, long-termiste assez fort, de plus long terme, qui a un peu l'idée philosophique sous-jacente de dire que, en fait, la plupart des humains qui vont exister dans l'histoire de l'humanité, ils vont naître dans le futur. On a des bonnes raisons de penser qu'aujourd'hui, on est encore qu'au début de l'histoire de l'humanité, et donc potentiellement, il y a des centaines de milliards d'humains qui vont vivre dans les années à venir. Et donc, on a peut-être un devoir moral de faire en sorte que l'humanité survive, pour qu'il y ait plein d'individus qui continuent de vivre des vies agréables plutôt qu'un univers silencieux et vide. Et que, en fait, c'est cet intérêt des générations futures. Il y aura tellement d'humains qui vont vivre dans le futur que, peut-être que la priorité, c'est de s'assurer que tous ces humains qui vont vivre de bonnes vies. Et donc, là encore, ça va aussi pas mal se recouper avec des causes de long-termiste court ou de faible long-termisme, comme la prévention des pandémies, etc., parce que si une pandémie détruit l'humanité, on voit que c'est pas très bon signe pour les humains futurs. Idem pour le risque nucléaire, qui est aussi pas mal considéré par la triste efficace. Et dans l'IA, par contre, les considérations peuvent être un peu différentes à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment beaucoup plus récent, cet aspect vraiment sur, on va dire, le très long terme. C'est un aspect dans lequel moi, je me reconnais un peu moins de l'AE. Et en fait, d'ailleurs, il n'y a pas de problème à pas se reconnaître dans tous les aspects de l'AE. On peut penser que c'est un cadre analytique qui est très intéressant et pertinent et utilisé que pour les causes qui nous semblent les plus pertinentes au sein de l'AE ou même en dehors de l'AE. Enfin, très bien, c'est-à-dire, je prends ces outils, je les applique à ma cause et balèque du reste.
Ouais, le fait de faire attention aux causes négligées fait qu'on va souvent être surpris des causes dont s'empare l'AE et ça va peut-être paraître contre-intuitif initialement. Mais il y a souvent des bonnes raisons derrière. Et d'ailleurs, c'est un peu une particularité de ce mouvement social qui ne part pas d'une cause particulière, ce qui est en général le cas des mouvements sociaux, mais il inverse un peu la causalité, il réfléchit plutôt quelles sont les causes dans lesquelles on peut être efficace, et du coup les causes retenues par l'altruisme efficace évoluent au fil des années et au fil de l'évolution de la pensée, voire de l'évolution des découvertes empiriques sur les différentes causes.
Ouais, exactement. Il y a un principe important dans l'AE qui est la cause neutrality, neutralité de cause, qui est de dire que on n'a pas a priori de cause préférée ou qu'on veut soutenir. Enfin, c'est vraiment juste en fonction de celle qui paraît le plus efficace.
Ouais. Je reviens à la question des différentes causes. Dans les causes dont on a parlé, elles sont très diverses et certaines touchent les humains, certaines touchent les intelligences artificielles, les futurs habitants, habitantes de la Terre. Quelle place l'altruisme efficace donne-t-il à l'animalisme dans tout ça, dans cette énorme diversité de causes?
Pas mal. Dans le mouvement de l'altruisme efficace, il y a beaucoup de gens qui sont végétariens ou véganes. Je pense être 40%, un truc comme ça, peut-être. En tout cas, c'est beaucoup. Et je pense d'ailleurs que ça a été encore plus au début du mouvement, quand il était moins grand et que c'était des gens peut-être plus engagés qu'aujourd'hui. Ça indique quand même que c'est une cause qui est prise au sérieux par pas mal de gens, pas assez encore, hein, idéalement, je pense qu'on devrait être... On peut pas se dire, en fait, pourquoi il y a si peu de gens qui sont végétariens dans l'AE, et mais ça montre comme qu'il y a un intérêt. Il y a quand même pas mal de moyens financiers et d'organismes de recherche au sein de l'AE intéressés par cette cause-là. Donc, l'altruisme efficace notamment avec une inspiration de la théorie du bien-être et utilitariste, arrive aux mêmes conclusions que c'est hyper important de diminuer la souffrance animale et qu'en plus c'est très facile à faire. Et même en fait, on a plein de co-bénéfices à le faire, que ce soit pour l'environnement, la santé, etc. Donc, au final, c'est même pas coûteux, il y a même des gains à diminuer la souffrance animale pour assister dans son ensemble. Et donc, pour cette
raison, ça aide aussi des causes humaines en fait.
Exactement, ça aide des causes humaines, ça aide des causes pour les générations futures. Enfin, il y a vraiment tellement d'avantages sur différents points. Et peut-être par contre que une des originalités de l'actrice efficace sur les causes animales, ça a été de regarder des choses un peu plus bizarres ou un peu plus cachées que la souffrance des animaux d'élevage et de s'intéresser à potentiellement comment on peut réduire la souffrance des animaux sauvages. Donc avant que les gens disent « Oh là là, mais attention, c'est hyper important les écosystèmes, c'est fragile, etc. » les gens sont bien conscients et il n'y a aucune cause d'intervention à grande échelle qui est suggérée pour le moment, à part la stérilisation des faits limiteurs à l'extérieur, qui d'ailleurs est tout aussi passionnant d'un point de vue éthique que d'un point de vue de la sauvegarde de la biodiversité. Mais par contre, il y a beaucoup de gens dans l'AE qui pensent que on a des bonnes raisons morales d'aider les animaux sauvages, on a des devoirs moraux par rapport à eux, et donc qui essayent de bosser avec des philosophes, des biologistes, des éthologues sur comment on pourrait éventuellement réduire la souffrance des animaux sauvages. Donc c'est vraiment un chantier sur le long terme, mais on s'y intéresse. Et en fait, je pense aussi qu'on peut voir la question à l'inverse, c'est parmi l'animalisme, quelle place a l'AE ? Et là-dessus, j'ai des chiffres, puisque en 2019, donc il y a déjà 3 ans, donc c'est peut-être encore plus maintenant, donc il y a un auteur qui trouvait qu'aujourd'hui, 25% des dons qui étaient faits dans l'animalisme avaient une coloration altruiste efficace. Donc un quart de tout ce qui est fait dans l'animalisme est plus ou moins, provient plus ou moins de l'AE. Donc on voit que ça pèse pas mal déjà, aujourd'hui, dans l'animalisme, l'altruisme efficace, et je pense que beaucoup de gens, d'ailleurs, dans le mouvement animaliste, ont déjà entendu de près ou de loin parler de l'altruisme efficace.
Déjà, oui, c'est notable pour un mouvement qui n'est pas le mouvement antispéciste ou le mouvement vegan ou le mouvement pour les droits des animaux, peu importe comment on l'appelle, qu'un mouvement qui part pas de ça initialement prenne autant en compte tous les êtres sentients. Et c'est même compris dans ses principes, en fait, de pas faire de discrimination ni selon l'espèce, ni selon... Enfin, il y a l'idée qu'une souffrance est une souffrance, en fait, et c'est un des principes fondateurs de l'altruisme efficace, c'est ça?
Exactement. L'altruisme efficace est une approche qui va être non spéciste, dans le sens qu'il ne va pas accorder plus d'importance aux intérêts des humains qu'aux animaux non humains. Et en effet, je pense qu'il y a peu de mouvements qui ne sont pas directement animalistes, qui peuvent se targuer d'avoir autant de végétariens ou de véganes dans leur rang, même dans les milieux écolos, alors que ça paraît très évident.
Oui, il y aurait beaucoup à dire sur la question.
Oui.
Mais alors concrètement, qu'est-ce que vous pensez que le mouvement, à part en termes de financement, là on le voit bien, les liens qu'il y a, ou en termes de proportion de végétariens et de véganes, mais qu'est-ce que le mouvement altruisme efficace apporte concrètement à la cause animale, peut-être en termes d'idées, de considérations stratégiques, mais aussi d'actions concrètes?
Ouais. Bon, déjà, je pense que l'altruisme efficace va apporter beaucoup de financement, pas seulement pour les assos, mais aussi pour la recherche et pour des nouvelles pistes de réflexion sur ce qu'on peut faire dans la cause animale. Notamment, sur la question de la souffrance des insectes, c'est un truc qui est pas mal abordé par l'AE, pas suffisamment à mon sens, mais qui commence à l'être, alors que c'est très peu abordé par l'animalisme en général. La question de la souffrance des poissons, des crevettes, etc., c'est quelque chose qui était un peu négligé par le mouvement animaliste classique, et où l'AE, en fait, via ses outils, s'est dit « Ok, là c'est un peu négligé, alors que c'est beaucoup d'individus qui sont capables de souffrir, ben en fait, on va financer de la recherche pour déjà mieux comprendre ce qui se passe, à quel point effectivement ils souffrent, comment ils souffrent, etc. Quel est l'état aujourd'hui de l'élevage de crevettes, comment on peut lutter contre, etc. Et après, financer des ONG qui vont être spécifiquement sur cet angle-là. Donc je pense que les financements, ils sont pas seulement en termes d'assaut, mais aussi en termes de recherche. Voilà. Ça, c'est une première chose. Après, il y a aussi le côté ouvrir à d'autres possibilités qui ont été un peu négligées ou même totalement non considérées par le mouvement animaliste classique. Bon, la question de la souffrance des animaux sauvages, c'est vraiment l'exemple le plus évident, parce que je pense que même au sein du mouvement animaliste, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont opposés. Et en fait, je comprends qu'on y soit opposé si on a l'impression que c'est pour agir maintenant, aujourd'hui. Mais par contre, dans l'AE, on va financer... de la recherche pour essayer de comprendre à terme ce qu'on pourrait faire éventuellement. Et voilà, ça c'est une nouveauté qu'a apporté l'AE. L'AE aussi, je pense, ça a apporté un angle qui était peut-être moins présent au mouvement de base, qui était la question du développement des protéines alternatives, de dire, bah, en fait, il suffit pas, enfin, c'est très dur de réussir à convaincre les gens d'être vegan. Enfin, ce qu'on appelle la stratégie véganiste, de dire, bah, on va convaincre tout le monde, et les gens vont réduire la consommation de viande, etc. Et, bah, pour faciliter, en fait, le fait que les gens mangent moins de viande, une solution, ça peut aussi être juste de développer plus d'alternatives, des meilleures alternatives et moins chères à la viande, pour que ce soit moins coûteux, pas uniquement en termes financiers, mais coûteux en termes d'efforts, pour les gens de diminuer leur consommation de viande, voire même en fait qu'ils le fassent sans y penser. Tellement ce serait devenu quelque chose de normalisé et de disponible.
Pour contourner la dissonance cognitive et la difficulté de convaincre les gens sur le plan moral.
Exactement. Mm. Donc ça, je pense que c'est une approche qui était moins appuyée par le mouvement animaliste classique à ma connaissance. Et après, du reste, voilà, y a aussi évidemment des choses qui vont de pair. Enfin, typiquement, le mouvement animaliste et la tosmicase mettent l'accent sur ce qu'on va appeler les corporate campaigns en anglais. Donc, le fait de vouloir d'attendre, d'exiger des entreprises qu'elles améliorent les conditions ou qu'elles vendent plus tel produit nocif, etc. Ou d'exiger des progrès en termes d'organisation publique, que ce soit des repas végétariens à l'école.
Des campagnes très ciblées, en fait.
Voilà, non, des campagnes plus collectives et pas seulement basées sur l'individu.
Ouais.
Ça, voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les deux. Peut-être ce que l'altruisme efficace a un peu moins, ça va être l'accent mis sur la consommation individuelle, justement parce qu'on a vu que c'est très très dur de convaincre les gens de devenir vegan, et notamment c'est très dur de le faire uniquement avec des arguments éthiques et environnementaux. Enfin, les gens, quand ils achètent à manger, sur le papier, oui, c'est important pour que les animaux soient bien élevés, qu'ils n'aient pas souffert, mais dans les faits, c'est pas du tout le critère numéro un quand ils sont dans l'état du supermarché et qu'ils achètent un produit. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait, enfin, qui a été maintes fois observé dans les études sur les attitudes des consommateurs. En fait, avec un angle à eux, on voit que même si ça se rejoint beaucoup avec quelques animaux, les mouvements animalistes classiques, il y a des petites originalités qui vont apparaître comme ça, à droite à gauche, soit sur l'angle qui va être utilisé, soit sur un truc qu'on n'a pas trop l'habitude, dont on n'a pas trop l'habitude de parler habituellement, mais qu'on va juger intéressant.
Alors, on a vu un mouvement très divers, un mouvement en constante évolution, et une des questions qui se pose, c'est le lien réel ou supposé de ce mouvement avec l'utilitarisme.
Ouais, historiquement, l'altruisme efficace, il a été pas mal inspiré par l'utilitarisme, et aujourd'hui, quand on demande aux gens dans le mouvement, on va dire leur approche en éthique, en philosophie morale, avec laquelle ils sont les plus proches, il y a une majorité de gens, mais pas tous, qui vont se dire plutôt utilitaristes. Et après, il y a pas mal de courants ou de sous-divisions ensuite, et notamment dans l'AE, on trouvait beaucoup à un moment d'utilitaristes négatifs. C'est pas la majorité, mais en tout cas, ils sont plus représentés qu'ailleurs. Et l'utilitarisme négatif va être notamment concentré sur la question de la souffrance, uniquement de la souffrance. Typiquement, là où un utilitariste classique va viser à maximiser le bien-être, un utilitarisme négatif va plutôt chercher à minimiser la souffrance. Et ça peut ne pas donner lieu aux mêmes conclusions. Mais voilà, il n'y a pas que des utilitaristes au sein de l'AE, et je pense que, et il y a des travaux d'ailleurs dans l'AE qui ont un sens, que, en fait, avec n'importe laquelle des grandes théories morales, on va dire classiques, donc déontologisme, éthique de la vertu, utilitarisme, on peut arriver à des conclusions qui, d'une part, nous disent que, un, on doit essayer d'avoir un impact positif sur le monde, et que, en fait, on peut avoir une forme de devoir d'efficacité pour, en tout cas, des bonnes raisons d'être efficace pour faire le bien.
D'accord. Mais il y a quand même une affinité, en fait, c'est ça, entre l'idée de d'être le plus efficace possible dans son altruisme et l'idée utilitariste qu'il faut maximiser le bien-être, peu importe les détails un peu des différentes sous-théories, c'est ça?
Oui, oui, je pense qu'il y a à la fois donc juste bah, ce biais historique, entre guillemets, puisque l'AE est né au sein de philosophes qui avaient un background plutôt utilitariste. Mm. Et en effet, l'approche utilitariste, elle est assez compatible avec la manière de réfléchir de l'AE.
Ouais, parce que tout le vocabulaire de l'altruisme efficace va être basé sur la souffrance, donc réduction de souffrance et augmentation de plaisir, plutôt que sur des théories morales qui mobiliseraient plus des concepts comme la justice, les droits, l'égalité.
Ouais, tout à fait, oui, ça je pense que c'est pas faux de le dire, et d'ailleurs c'est aussi je pense une des raisons pour laquelle on peut avoir besoin de gens avec d'autres approches de philosophie morale qui viennent dans l'AE, pour éviter, d'un point de vue épistémique, d'être trop limité par une seule approche. Mmh. Et je pense que d'autres théories morales auraient beaucoup apporté épistémiquement à l'altruisme efficace pour éventuellement mettre en lumière des angles morts que peuvent avoir les aveugles très utilitaristes.
D'accord.
Et donc le mouvement est très accueillant, en partie pour cette raison-là, aux gens qui seront indiqués peu utilitaristes et qui seraient intéressés par le...
L'altruisme efficace, c'est aussi un mouvement qui a reçu un certain nombre de critiques depuis sa création. Ça me paraissait intéressant d'y consacrer un certain temps dans l'épisode. Et ce, d'autant plus qu'un des éléments qui est beaucoup mis en avant en fait, dans l'AE, c'est justement l'esprit critique et la capacité à changer d'avis, à se remettre en question. Ce qui fait qu'en fait, une très grande partie des critiques de l'AE viennent et de l'AE elle-même. Et je dois dire que pour préparer cet épisode, j'ai passé un certain temps à lire des posts de blog sur le forum de l'altruisme efficace. Et j'y ai trouvé énormément de critiques diverses, très précises, beaucoup discuté. Il y a même récemment, peut-être que vous pouvez parler de ça, il y a un concours de recherche des meilleures critiques qui a été lancé au sein de l'AE, c'est ça?
Ouais. Bon, en fait, l'idée, c'est de dire que rédiger une critique, ça prend du temps et c'est souvent pas forcément très bien perçu. En tout cas, les bénéfices de rédiger une critique sont assez faibles parce que socialement, ça apporte souvent pas grand-chose. Enfin, pas toujours. Hein. Parfois, en fait, t'as des gens, ça y est l'inverse. Hein. Quand un mouvement est suffisamment développé, est suffisamment connu, il y a des gens qui peuvent... gagner en statut social à le critiquer. Ouais, et je pense que c'est un truc qu'on commence à apercevoir maintenant, mais de manière générale, en tout cas, faire une bonne critique détaillée qui implique de bien comprendre ce qu'on critique, ça prend beaucoup de temps pour des bénéfices assez faibles, et donc en fait, il faut créer des incitations à ce que ces bonnes critiques existent, pour récompenser les gens qui vont prendre le temps de le faire, et aussi pour permettre à des gens qui n'auraient pas eu les moyens de faire des critiques, parce qu'ils n'avaient pas le temps de mettre des heures alors que bah ils ont besoin d'argent à côté pour vivre, etc. Il y a plein de raisons sous-jacentes à la philosophie de ça, donc de en tout cas de créer des incentives pour que des critiques de qualité de l'AE émergent. Et donc oui, il y a eu un concours qui a été organisé par le Center for Effectual Altruism avec plus de 100 000 $ je crois de prix qui étaient distribués à plusieurs critiques, et il y a un truc dans l'AE qui s'appelle le Red Team, l'équipe rouge. Il y a un tag d'ailleurs là-dessus sur les forums qui va correspondre à toutes les critiques de l'AE. Enfin, en gros, c'est jouer pour l'équipe adverse, quoi.
Bah alors, peut-être qu'on peut prendre dans l'ordre quelques objections et vous pourrez me dire pour chacune, bah déjà, dans quelle mesure elle vous paraît pertinente, ou est-ce que, parce qu'il y a peut-être aussi des mauvaises critiques, hein, ou des critiques pas légitimes, et peut-être aussi ce que l'AE a fait pour la prendre en compte, si, ou pas, hein, si c'est pas le cas. Alors, la première critique que j'avais en tête, c'est l'idée que l'AE est un peu un mouvement élitiste. Ça vient, il y a beaucoup de réflexions philosophiques, très techniques, ça demande un niveau de spécialisation assez poussé. C'est beaucoup des universitaires qui réfléchissent à ces questions-là, ou au moins des gens qui ont fait des études parfois assez longues. Il y a une forme de jargon aussi qui s'est développée au sein de l'AE qui peut être très excluant quand on ne connaît pas, et surtout quand on débarque en fait dans le mouvement. Et il y a aussi la question d'un manque de diversité interne. Il faut rappeler que c'est quand même un mouvement qui a été créé par un groupe d'hommes blancs anglophones de classe moyenne sup et très diplômés. Donc ça a peut-être un impact aussi.
Ouais, je pense que c'est une critique qui est tout à fait valide, qui est importante à bien des égards, et notamment, je pense, d'un point de vue épistémique, en fait. Bah, c'est l'idée, je pense que vous avez compris les auditeurs, de standpoint theory, de dire que l'épistémie du point de vue, je veux dire que bah, certaines personnes, de par leur expérience de vie singulière, et les choses qui vivent peuvent avoir un avantage épistémique important pour parler de certaines causes, certaines choses. De manière générale, je pense que la diversité, c'est quelque chose qui a de la valeur d'un point de vue épistémique, et l'AE ne déroge pas. En même temps, c'est assez logique par rapport à la manière dont il s'est construit reste élitiste. Je dis assez logique parce que, dans un premier temps, le mouvement a pas mal ciblé les étudiants dans les grandes écoles, avec l'idée que c'est des gens qui auront beaucoup de pouvoir à l'avenir, que ce soit un pouvoir financier, politique, etc. En fait, en ciblant les gens qui auront du pouvoir plus tard, ces gens, individuellement, auront plus de sens de faire une différence que si on ciblait des gens qui ont moins de pouvoir politique, financier, etc.
Ah, donc ce que vous dites, c'est que c'est quand même une stratégie assumée qui découle de l'impératif d'être efficace.
En fait, oui et non. Enfin, on ne veut pas être élitiste pour rester entre gens, on va dire... de grandes écoles, classes moyennes plus, etc. Enfin, c'est pas, ça se veut pas excluant par principe. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens de l'AE qui disent, mais attendez, Ok, c'est bien de faire ça, mais il nous faut aussi plein d'autres profils qui ont leur valeur et on a besoin d'artistes aussi, on a besoin de techniciens qui ont des compétences hyper utiles pour faire plein de trucs, qui, enfin, en gros, plein de compétences peuvent être très pertinentes pour faire du contenu ou des actions efficaces. Donc c'est des gens qui disent ça, mais disons que sans de volonté explicitement élitiste, de fait, des canaux de recrutement principaux du mouvement, notamment au début, ça change un peu. C'est pas étonnant qu'on se retrouve avec ce profil aujourd'hui, qui je pense est à déplorer et à corriger. Mais ça vient pas d'une volonté de club, mais juste de l'idée de dire, bah ouais, à choisir entre cibler les gens d'une fac dont je sais que beaucoup deviendront, au niveau des statistiques, soit influents politiquement, soit très riches, hein, ou une fac où les gens bah, auront des emplois avec moins de pouvoir politique, bah, ça peut poser. Enfin, c'est plus intérêt à favoriser les premiers que les seconds. Ça peut donner l'impression d'être un peu horrible comme ça. Un peu bizarre. Mais je pense aussi que c'est parce que, à gauche notamment, on a un peu du mal avec le pouvoir en général et l'argent aussi, qui fait partie du pouvoir, et qu'on voit ça comme quelque chose d'un peu mauvais. Enfin, en gros, parce que ça peut pervertir ou parce que le pouvoir, on tient souvent à s'en éloigner, quoi. Il y a quelque chose d'un peu impur là-dedans et qu'on n'a pas du tout l'AE, en fait. Enfin, l'AE assume très clairement de dire, bah, en fait, si on veut changer le monde, il faut du pouvoir. Mmh. Et donc, on va chercher ce pouvoir et les lieux de pouvoir à se les approprier parce que sinon, en fait, on pourra toujours rester que dans la contestation, mais on pourra pas mettre nous-mêmes en place le monde qu'on aimerait voir naître. Et je suis assez d'accord avec ça, enfin, dire que le pouvoir, c'est avant tout instrumental, c'est un outil et ce pouvoir existe et je préfère qu'il soit approprié par des gens proches de mon camp que par des gens plutôt ennemis de mon camp.
Et est-ce qu'au-delà de ça, il y a une culture interne dans cette communauté, parce que c'est aussi une communauté, l'altruisme efficace, qui favoriserait pas l'inclusivité? Il me semble que j'avais cru comprendre qu'il n'y a pas trop d'homogénéité pour les gens qui commencent à s'intéresser à l'AE, mais il y a une forte perte, en fait, il y a un fort taux de perte, et il y a plein de gens qui finissent par s'auto-exclure, et il ne reste finalement qu'un certain nombre de personnes qui ne sont pas aussi diverses que les personnes qui s'y intéressent initialement.
Peut-être, je sais pas, mais peut-être, enfin, je dis pas que c'est vrai ou faux, juste que je sais pas, mais ce serait possible. Après, dans tous les cas, il y a quand même un profil très homogène aujourd'hui. Typiquement, beaucoup de gens qui seront blancs, de classe aisée. Un peu plus d'hommes que de femmes, même si ça tend à changer. C'est quelque chose dont a conscience ce mouvement, et qui va essayer, du coup, de créer des canaux d'accueil pour des profils qui sont pas trop présents aujourd'hui. Donc on avait des orgas AE qui étaient vraiment, on va dire, des groupes non mixtes d'AE femmes ou des groupes non mixtes d'AE non blancs, etc. qui visaient justement bah, à ce que le milieu de l'AE devienne plus accueillant pour les gens qui soient pas dans ce profil d'hommes blancs, de classe aisée, etc. Il y a une volonté de chercher à recruter d'autres profils, mais qui en même temps se heurtent à l'autre idée de recruter... Bah, surtout des gens dans des lieux de pouvoir, et bah, t'apprends rien en disant qu'aujourd'hui les lieux de pouvoir sont majoritairement détenus par des gens blancs, de classe aisée, hommes, etc. Et bon, c'est un peu le souci, quoi.
Ouais, concrètement, un des risques, c'est qu'en fait l'AE devienne juste ou majoritairement un groupe de réseautage pour obtenir des opportunités. Et du fait des nombreuses ressources dont dispose l'AE, il y a beaucoup d'argent, comme vous l'avez dit, qui circule. Il y a des start-up associatives qui sont lancées par des personnes qui, en général, sont dans les réseaux de l'altruisme efficace et qui se font connaître et qui se font reconnaître leurs valeurs, mais qui, du coup, ont un intérêt à participer à l'altruisme efficace pour pouvoir avoir de l'argent pour lancer une asso.
Ouais, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut voir, notamment maintenant que l'AE a plus de moyens. C'est-à-dire qu'au départ, l'AE... c'est un mouvement qui a été fauché parce que c'était tout récent et c'est ça. Et donc, les gens qui s'intéressaient à l'AE n'y allaient pas en se disant « Ah bah l'AE pourra m'aider à monter tel projet, etc. » En fait, c'était plus en gros « Bah, moi je vais donner mes ressources à des causes AE, mon temps, etc. » Et je pense que comme le mouvement a plus de ressources, maintenant il y a des gens qui peuvent voir l'intérêt, en fait, juste de soit feindre l'intérêt pour l'AE, soit avec un intérêt sincère, mais du coup qui voit comment l'AE peut les aider, et puisque l'AE recrute dans les lieux de pouvoir, ça risque de favoriser ces gens-là. Ouais, c'est...
Des comportements opportunistes, en fait, et pas vraiment altruistes.
Ouais. Et en fait, c'est le souci d'avoir... l'idée c'est que avant être à tout efficace impliquait de donner 10% de ses revenus et d'être végétarien, ce serait un signal coûteux qui serait difficile à feindre en fait.
Ouais.
Tu vas pas faire enfin tu vas pas être végétarien et donner tes revenus juste pour faire semblant et avoir des aides de l'AE par la suite. Enfin, c'est trop coûteux si t'es pas sincère dans ta démarche.
Ouais.
Et donc quand le fait que l'AE s'ouvre plus et recrute plus de gens, ça fait que et que l'engagement dans l'AE ne requiert pas de faire autant de sacrifices qu'avant. Oui, ça peut amener des gens à s'y intéresser, mais à plus opportunistes. Bah ouais, l'AE c'est encore jeune, c'est un mouvement qui évolue. Peut-être que le mouvement va se dire, bon bah en fait, faut qu'on mette des signaux plus coûteux de ce que ça veut dire d'être dans l'AE pour éviter que des gens opportunistes ou qui ont mal compris l'AE ou qui, pour une raison, sont pas vraiment liés au mouvement, qui s'en revendiquent et qui le détournent en quelque sorte les efforts, la sincérité et les ressources du mouvement.
Il y a une critique qui est assez proche de cette question-là, mais qui touche plutôt à... Alors maintenant, l'AE a beaucoup d'argent, et c'est la question d'où vient cet argent, en fait. Et du coup, implicitement, c'est la place de la philanthropie dans ce mouvement, donc le fait, toutes les fondations de bienfaisance, typiquement la fondation Bill Gates, par exemple. Il y avait Estiva Reus, donc une des figures de l'antispécisme en France, qui avait écrit un fascicule dans les cahiers antispécistes sur l'altruisme efficace, et qui parlait de philanthrocapitalisme, donc elle le décrivait comme l'interdépendance en fait entre l'essor du capitalisme et l'essor de la philanthropie, et aussi une certaine culture d'entreprise commune entre le big business d'un côté et les fondations qui détiennent des milliards en capitaux. Et c'est quelque chose qu'a assumé l'altruisme efficace, de faire appel, d'essayer d'influencer et d'obtenir de l'argent de la part de ces grandes fondations capitalistes.
Ouais. En fait, je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être vraies à la fois. On peut penser que les milliardaires ne devraient pas exister. Dans le sens où personne ne devrait pouvoir être aussi riche, tout en se disant que bah, maintenant qu'ils ont de l'argent, autant leur prendre et l'utiliser pour faire des choses cool plutôt que d'acheter des yachts.
Ouais.
Et Makaski, qui est une des figures de proue du mouvement, il est très clair là-dessus en fait, que pour lui, les milliardaires n'auraient pas existé et qu'il faut leur prendre tout l'argent. Quoi. Il y a une petite interview qui est assez marrante où il en parle, où en gros, il me semble qu'il est invité sur un plateau de télé, sur un talk show, et le présentateur lui dit: mais est-ce que vous pensez pas. Qu'en fait, c'est pas à nous, petites gens, de faire des dons et de donner l'argent et faire des trucs, mais c'est aux gens qui ont beaucoup de sous et de pouvoir. Et dire, ah si, nous on doit donner 10%, mais ils doivent donner 99%, quoi.
Ok.
Et moi, je suis d'accord avec ça, en fait. De dire que, idéalement, il devrait pas y avoir de milliardaires, et en fait, faut pas qu'on légitime les milliardaires. En fait, faut pas que l'AE serve de conscience morale ou de stratégie de communication, de relations publiques des milliardaires. Pour se faire bien voir.
Oui, c'est facilement récupérable, en fait. Voilà. Ils donnent un peu une petite proportion de leur argent pour des causes très louables, et donc ils peuvent continuer, en fait, à légitimer leur action délétère par ailleurs.
Voilà, je pense que l'AE, faut pas que l'AE participe à ça, même si on pourrait noter par ailleurs que, en fait, il n'y a pas que l'AE qui permet de faire ça. Enfin, n'importe quel milliardaire qui a une fondation peut le faire, et y compris dans des fondations qui n'ont que peu d'impact, ou bien ils se fichent totalement d'efficacité. Enfin,
oui, mais peut-être que la question précise que ça pose, c'est un peu une forme de complaisance qui découle peut-être de l'intérêt. Vous le dites, c'est assumer le fait de rechercher l'argent là où il est parce que c'est là où est le pouvoir et c'est ce qui permet de faire du bien. Mais du coup, est-ce que ça implique pas d'avoir une certaine forme de complaisance envers les ultra-riches pour les convaincre, pour mieux les convaincre de donner leur argent dans des causes efficaces?
Je pense que c'est quelque chose auquel il faut être vigilant. Qu'en fait, cette complaisance, elle peut peut-être être permise si quelqu'un s'engage à donner au sein de sa vie 99% de ses sous. Mais que tant que les milliardaires font pas des efforts colossaux, et par colossaux, le mot est encore faible, on ne doit pas être complaisant, et surtout, on doit faire très attention à ce que on se puisse permettre de continuer à critiquer les actions menées par ces milliardaires. Notamment, je pense à Bill Gates, qui, à mon sens, a peut-être pas assez été critiqué par le mouvement, parce qu'il a fait des trucs cool, notamment contre la malaria, et du coup, on se dit « Ah, bah c'est cool il fait être cool », et c'est peut-être du coup pas assez permis de critiquer sur d'autres trucs moins cool qu'il a fait. Ça, je pense, cette vision là-dessus, et j'espère que le mouvement l'est, et je pense que le mouvement peut l'être quoi qu'il arrive. Mais oui, vigilance là-dessus, et après, pareil, les risques aussi d'un point de vue épistémique, ne pas se laisser influencer par ce que vont faire les milliardaires, parce qu'ils sont dans notre poche, et se dire qu'en fait, il y a peut-être d'autres moyens plus efficaces que d'aller chercher l'argent des milliardaires, et on risque d'avoir un biais de se dire que c'est un moyen efficace, alors que, et pas être ouvert à d'autres approches plus critiques, et voilà. Il y a un enjeu de rester ouvert à ces critiques-là. Donc, pour répondre à ta question, oui et non. Oui, je pense que c'est une bonne critique. dans une certaine mesure, et je pense qu'il y a clairement des choses auxquelles il faut faire attention. Mais encore une fois, je tends à penser aujourd'hui que je préfère que les milliardaires utilisent leur argent pour l'AE que pour d'autres choses, y compris des yachts ou quoi que ce soit, genre racheter Twitter.
Ouais. Et plus largement, cette question en fait du capitalisme, ça me donne une transition toute trouvée pour une autre objection qui a été adressée à l'AE depuis ses tout débuts. C'est la question de ne pas suffisamment mettre l'accent sur le changement systémique. Et particulièrement vers les débuts de l'AE, il y avait une forte insistance sur la stratégie du earning to give, donc aller dans des postes à haute rémunération pour pouvoir en reverser une partie dans des causes efficaces, et aussi une plus grande insistance sur ce que les individus peuvent faire plutôt que sur peut-être des changements plus institutionnels.
Ouais, alors juste je vais tempérer un peu ce que tu viens de dire. Donc le earning to give, ça a été une stratégie qui a été suggérée au sein de l'AE au début et qui l'est encore un peu aujourd'hui, mais ça n'a jamais été la stratégie principale suggérée. L'idée, c'est juste de dire, bah en fait, si vous êtes confortable à mener une carrière qui fait gagner beaucoup d'argent et que c'est un peu un de vos buts dans la vie, bah, en fait, si vous vous engagez à donner beaucoup d'argent, ça peut servir à financer plein d'autres trucs et ça peut être cool. Typiquement, si vous hésitez entre faire un taf pas très bien payé dans une asso ou gagner 6 fois ça, bah, en fait, allez gagner 6 fois ça. Et comme ça, en donnant, vous pouvez permettre de payer 3 fois le poste que vous auriez pu prendre sinon. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
Donc, c'est une stratégie qui a été préconisée pour certains profils très particuliers et pas dans l'absolu. Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'AE n'a pas assez, je pense, et je suis pas seul à le penser, beaucoup de gens dans l'AE le disent aussi, et des critiques de l'AE le disent aussi, n'a pas été assez intéressé par les changements plus systémiques, notamment parce que il peut y avoir un biais, je pense, de dire que c'est plus simple d'évaluer une action qui est pas systémique qu'une action systémique. Enfin, par principe, c'est facile d'évaluer si tel médicament est plus efficace que tel autre. C'est difficile de savoir si c'est plus efficace de renverser le capitalisme ou de... comment tu l'évalues, enfin, Et comme c'est plus dur à évaluer, on va pas se jeter dessus et on va un peu le déconsidérer, les actions systémiques en général. Je pense que c'est un peu en train de changer. Pas assez, je pense que l'AE devrait... plus s'impliquer dans le changement systémique. Après, pour autant, donc sur la question vraiment du capitalisme, l'AE ne se revendique pas anticapitaliste, pas plus qu'il ne se revendique pro-capitalisme non plus. Enfin, juste, il n'y a pas vraiment de positionnement très clair par rapport à ça. Et je pense que, à moins qu'une majorité de gens dans l'AE soient convaincus d'une part que on peut mettre fin au capitalisme, et d'autre part que l'alternative qui naîtra de la mise en œuvre du capitalisme sera nécessairement meilleure, et qu'on a une même certitude dessus, il y a peu de chance que l'AE se revendique anticapitaliste. Mais malgré tout, il y a des gens qui font... il y a des gens anticapitalistes dans l'AE qui essayent de réconcilier les deux, mais bon, ça reste une minorité, et je vais pas mentir en prétendant que c'est un courant majoritaire. Ça reste très marginal au sein du mouvement.
Et cette question du manque d'emphase sur la question systémique, ça peut aussi être compris en un sens un peu différent, cette fois-ci au sens des oppressions systémiques, comme le sexisme, le racisme ou le validisme ou d'autres. Et alors là, c'est vous qui m'avez pointé vers cette objection-là. Vous êtes assez d'accord avec ça sur le fait qu'il y a, dans une partie du mouvement au moins, une forme de naïveté politique, peut-être, sur ces questions-là.
Ouais, par exemple, de naïveté politique plus généralement. Il y a beaucoup de gens dans l'AE qui ont un profil... là où la gauche va recruter dans les facs de sociaux, l'AE va recruter dans les écoles d'ingénieurs, où on a un profil qui va être moins politisé. Et je pense que c'est parfois que le fait de dire bon, bah en fait, on va servir des études scientifiques et de la science pour déterminer les meilleurs moyens, etc., ça peut amener des gens un peu naïfs à se diriger vers une forme de scientisme, de dire bah en fait, on n'a pas besoin de la politique. Juste, on regarde ce que dit la science et on le fait, quoi. Et ça ne fonctionne pas comme ça.
Et puis, ça peut aller de pair avec une forme de négligence des sciences humaines aussi.
Voilà. Après, je pense que dans un mouvement plus large, on n'a pas besoin que tout le monde soit très calé politiquement et hyper expert en sciences humaines pour faire quelque chose. Enfin, typiquement, les gens qui bossent sur un domaine très spécifique ou ce sont des experts sur leur domaine, en fait, on s'en fout un peu qu'ils aient une vision plus globale politiquement, tant qu'ils ont l'expertise sur le domaine, que ce domaine est aligné avec l'AE. Par contre, je pense que c'est important que les gens qui ont de l'influence dans l'AE, des gens comme Mike Eskill, eux soient moins naïfs politiquement et s'informent sur ces sujets-là pour pas être à la masse, soient ouvertes aux critiques et permettent ensuite d'insuffler une tendance qui va être moins naïf politiquement. Et sauf que, notamment si eux espèrent aboutir à des changements politiques, à des victoires politiques, ce serait nécessaire parce que il suffit pas d'avoir beaucoup de ressources et beaucoup de moyens pour gagner des élections ou pour passer ses idées. Au bout d'un moment, il y a aussi une question de compréhension des élus de pouvoir et c'est des choses à comprendre.
Est-ce que vous aviez d'autres objections en tête qui vous semblaient assez sérieuses et qu'on n'aurait pas évoquées?
Bon, je pense qu'il y a plein d'objections hyper intéressantes, notamment juste sur la question de comment on évalue une cause, en fait. C'est quoi les risques d'évaluer, de tout en faire des analyses cause-bénéfice, enfin... Il y a plein de très bonnes critiques qui sont développées par des gens en dehors et au sein d'AE, et je pense pas qu'on pourra tous les voir, et je pense qu'on a déjà fait un bon tour des critiques qui pourraient intéresser notamment les gens qui écoutent ce podcast, avec une sensibilité plus de gauche et plus animaliste que l'individu moyen.
Quelles sont vos trois recommandations, Tom Brichevalier, pour les auditeuristes?
Alors, j'ai trois recommandations. La première, c'est un texte de Mike Eskill sur ce qu'est l'altruisme efficace. Et c'est un texte que j'ai traduit en français sur mon blog. Donc, vous pouvez le lire en version originale ou en version traduite. C'est un texte qui, à mon avis, se rapproche le plus de ce qu'on a d'une définition de l'altruisme efficace. Il n'y a pas de définition officielle, mais s'il fallait en choisir une, ce serait ce qu'on aurait de plus proche, je pense. Donc ça, c'est ma première recommandation. Ensuite, recommandation toute bête, mais la dernière vidéo de Monsieur Phi sur le spécisme est super, et comme elle est toute récente, elle n'a pas encore été recommandée, et je la trouve vraiment géniale. Enfin, j'ai pas en tête de meilleure introduction à l'antispécisme qui soit à la fois relativement fun à écouter, rigoureuse et pertinente. Enfin, c'est vraiment trop bien. Je suis si heureux que cette vidéo existe.
Je suis complètement d'accord.
Donc voilà, si vous l'avez pas encore vu, je le recommande et il faudrait vraiment qu'on la diffuse le plus possible, que ça devienne vraiment le nouveau Gaïrovski, mais sans sexisme et sans raisonnement fallacieux et chelou. Donc c'est vraiment super, cette vidéo-là. Et en dernier, bon bah, c'est un peu normal, mais recommander tout ce que fait Romain Espinoza, qui est mon directeur de thèse, et quelqu'un qui fait des choses formidables. Donc suivez-le sur Twitter. Je sais que son bouquin a déjà été recommandé, mais je le re-recommande. Mm-hmm. Écoutez ses interviews, écoutez ce qu'il fait. C'est super. Comme tu as déjà dit, je vais faire une quatrième suggestion de ressources.
C'est de la triche, là.
Ouais, un peu, j'avoue. Qui est juste sur le site de l'Altruisme Efficace, donc Effective Altruism, je crois que c'est .org, il y a un handbook qui sert d'introduction à l'AE. Donc si vous voulez creuser le sujet, en fait, bah, le meilleur moyen, c'est de lire ce handbook, parce que c'est très clair. Ça a nécessité, je pense, des dizaines de versions avant d'être à la version actuelle. Donc voilà, bon moyen de creuser le sujet.
Merci beaucoup Tom Brichevalier pour cet entretien.
Merci à toi.
Tout le monde au sein du mouvement animaliste n'est pas forcément convaincu par l'approche que propose l'altruisme efficace, mais le but de Comme un poisson dans l'eau est aussi d'offrir un espace pour ce type de débat et de réflexion, et pour donner à entendre des perspectives diverses sur la question du spécisme. N'hésitez donc pas à me dire ce que vous en pensez sur les réseaux, ça m'intéresse toujours beaucoup. Vos retours après le dernier épisode ont été incroyables. C'est un de ceux qui a été le plus partagé et commenté. Et j'ai reçu de nombreux messages privés vraiment très touchants. Merci beaucoup d'être là, et pour votre soutien. À dans 2 semaines, bisous.